Dans cet évangile de la rencontre de Jésus avec cet homme qui veut expérimenter la vie en abondance, la vie éternelle, hein, dans cette rencontre, c'est intéressant d'identifier tous les verbes, tous les mots qui indique la parole, qui indique le regard, les regards, il y a beaucoup de regards. Et puis il y a aussi ce qui empêche ces regards de se poser sur l'autre, de se mettre à hauteur de visage. Jésus est à hauteur de visage. Alors Jésus en indique un obstacle, un écran. C'est par exemple les richesses qui pourraient peser contre l'authenticité de la rencontre. Et c'est de cette authenticité que jaillit quelque chose. Jésus, pour se mettre bien à hauteur de visage, il dit « Mais Dieu seul est bon, pourquoi dire que je suis bon ?» Il veut vraiment être là, authentiquement devant cet homme qui le rencontre. Il posa son regard sur lui, il l'aima, et comme il veut faire plus pour s'ouvrir au royaume, eh bien il lui dit, oh, il y a encore quelques écrans chez toi, mais tu peux peut-être t'en débarrasser un peu, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres. Après il y a cette énigme, du moins pour notre mentalité latine, occidentale, qu'est-ce que c'est que ce chameau? Et qu'est-ce que c'est que cette aiguille? Parce que pour qu'un chameau passe par le chat d'une aiguille, bon, on pense au chat qui est déjà plus petit que le chameau, mais l'aiguille qui est encore plus petite que le chat, on se dit, mais c'est pas possible. Alors j'en ai eu une explication très belle par la tradition sémitique qui est là à Jérusalem, un jour dans la mosquée d'Omar, là près du temple de Jérusalem. Il y a aujourd'hui une mosquée, c'était devenu aussi une cathédrale des croisés, aujourd'hui c'est une mosquée. Et il y a deux petites colonnes, l'une en face de l'autre, près de la mihrab. Et c'est un musulman qui, en expliquant le lieu, me disait, vous savez, dans nos traditions d'Orient, passer par le chat d'une aiguille, hein, c'est passer entre ces deux petites colonnes. Alors bon, c'était pas un petit chat d'une petite aiguille. Il fallait être très, 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 très maigre pour y passer. Il aurait fallu que le chameau, avec ses deux ou sa bosse, soit complètement aplati quand même pour y passer. Mais c'était plus facile. Peut-être que Zélie, tu serais passé. Oui, oui. Toi, tu serais passé encore entre les deux colonnes, entre ces deux petites colonnes. En tout cas, voilà, ces deux petites colonnes, il y a un entre deux, hein, et c'est par là que le chameau est invité à passer. Et donc, peut-être les disciples de Jésus aussi. Alors, qu'est-ce que c'est que cet entre deux, de ces deux petites colonnes qui se regardent de ce face à face? Qu'est-ce que c'est? La deuxième lecture, on avait la lettre, hein, de l'école de Saint-Paul, aux Hébreux, sur la parole de Dieu qui est comme un glaive tranchant pour le discernement. C'était la première lecture, le discernement. Disco, discernement, disco en latin, c'est apprendre. On apprend quand on est entre deux, quand on discerne, quand on cherche la sagesse, on apprend des choses. Et certainement, par l'aide de la parole de Dieu. Alors la parole de Dieu, là, Saint Paul, son école, ne la situe pas comme ça, comme un truc qui descendrait du ciel comme ça. C'est plutôt dans un entre-deux, entre deux petites colonnes. Dans cet entre, il y a quelque chose qui jaillit. C'est à deux tranchants. Donc ça veut dire que ça regarde un visage et ça regarde l'autre visage. Elle est entre deux. Ça, les Juifs nous le disent facilement, hein, avec Hillel et Shammai, eux qui se chamaillaient toujours et qui se chamaillent toujours, il ne faut pas que ce soit trop non plus, qui se chamaillent toujours pour essayer de comprendre où est la parole de Dieu, parce que pour eux, la parole, c'est l'enclume de Dieu qui frappa le Sinaï et plein d'étincelles se sont répandues tout autour. Et à la charge de ces Juifs et de ces Juives d'accueillir les étincelles, de se réunir, de se rencontrer à hauteur de visage pour ramener un peu toutes ces étincelles et prendre la mesure de cette parole de Dieu qui est à double tranchant ou à plusieurs tranchants. La parole de Dieu qui fait vivre, qui a un germe d'éternité, on la découvre quand on se pose face à face, à hauteur de visage, quand on dialogue, quand on se parle et quand on essaye de se recevoir de ce qui est entre deux. C'est beau cela. Alors si c'est ça, le passage du chameau par le chat, c'est encore à notre portée le dialogue. C'est à notre portée, c'est possible. Mais les disciples se chamaillaient aussi. Et ce n'était pas un petit chat, c'était plutôt un chameau. Ils se chamouillaient. Voilà. Donc apprendre le dialogue, ce n'est pas évident. Se laisser générer par la parole de Dieu qui nous fait grandir, qui nous fait devenir, advenir à nous-mêmes, ce n'est pas facile. Et pourtant, c'est l'attitude de Jésus qui regarde le disciple, qui l'aime, qui se met à son niveau. Alors c'est ce qu'ils essayent de faire à Rome. Oh, quelle découverte, quelle révolution! Dialoguer. Remarquez, peut-être pour nous aussi, en famille, peut-être en société. Oh, à Marseille, on dialogue quand même plus qu'à Paris, il faut le dire, enfin dans certaines assemblées. Apprendre à dialoguer, ça peut être révolutionnaire. On peut apprendre des choses. Alors j'entendais hier, je l'ai eu au téléphone le matin, Giuseppina, une des théologiennes du réseau méditerranéen qui travaille avec nous, qui est au synode. Premier jour, elle m'avait dit des choses. Bon. Mais là, hier, elle était contente. Elle était contente, elle était dans la salle de presse du Vatican avec deux, trois monseigneurs et une religieuse. Et elle disait, on est en train de faire une découverte révolutionnaire. Alors, j'ai lu ce qu'elle écrit et ce qu'elle disait. Elle disait, en fait, la révolution, c'est d'apprendre vraiment à se mettre autour de table, des 8-8, je crois, à se regarder en face, à hauteur de visage, à s'écouter mutuellement. Et elle disait, quand on s'écoute au synode, on essaye d'entendre l'autre en essayant de comprendre comment il en arrive à dire ce qu'il dit, simplement. Alors lui, il est censé nous aider, elle est censée nous aider à comprendre pourquoi il dit ça aujourd'hui dans ce contexte, quelle est son histoire, quelles sont ses expériences. Et elle dit, après que chacun, l'intervention de chacun, on se met en silence pour intérioriser ce que l'autre a dit. Et puis après, chacun à la table fait la même démarche et elle disait, j'essaye de faire comprendre aussi, de me rendre consciente de ce qui fait que je dis ça aujourd'hui. Et j'aide les autres à saisir un petit peu d'où je viens. Elle dit, ce qui est beau, c'est que on vient d'horizons très différents, de continents très différents, d'expériences très différentes. Mais le fait d'apprendre à comprendre pourquoi l'autre dit ça, comment il en vient à dire cela, par un moment de silence, d'intériorisation de ce que dit l'autre, ça nous aide à dialoguer. Et elle dit, ce qui est révolutionnaire, c'est quand même bien que l'Église le découvre après tant de siècles, parce que Jésus le disait quand même il y a 2000 ans. Mais c'est beau. C'est pour nous, c'est pour moi aujourd'hui, j'en ai besoin, nous en avons besoin en famille, en société, redécouvrir. Et elle disait, ce qui est beau, c'est qu'à la fin de chaque rencontre, on est grandi par quelque chose de plus grand que nous qui a jailli de cette écoute à huit. Quelque chose a jailli du centre de la table, quelque chose a jailli de l'entre-deux des colonnes du chat de l'aiguille, quelque chose a jailli. Et ça, Philon d'Alexandrie, quand il commente la deuxième lecture sur la parole de Dieu à double tranchant, qui est source de vie éternelle, il dit, la parole en grec, c'est logos. Logos, ça veut dire séparer pour réunir. Il y a un entre-deux, il faut en être conscient, mais quand on l'écoute vraiment, elle jaillit et elle réunit. Et il aimait dire que la parole de Dieu, c'est la parole du dialogue, qui jaillit du dialogue. Il disait, Logos, parole, n'a de sens que si elle est dia, Logos, que si elle est partagée, que si elle jaillit d'une rencontre. Alors, si on pouvait faire ces expériences-là, déjà entre nous, mais aussi en société, peut-être qu'un advenir nouveau nous surprendrait à co-construire ensemble.